Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Et dans cette première partie, donc, c'est tant que les femmes ne seront pas libres, nous marcherons. Donc, c'est le leitmotiv de la marche mondiale des femmes. Nous avons donc aujourd'hui deux invités, Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Et Marion.
Bonjour.
Bonjour, voilà. Et ensuite, nous parlerons de deux licenciés qui travaillent dans les crèches, qui ont été licenciés, qui ont été remplacés le lendemain par d'autres salariés, hein, et qui sont en grève, évidemment. Ils ont été licenciés pour cause de grève, et on parlera de ça en deuxième partie de cette émission.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bien, alors bonjour à toutes les deux. Alors effectivement, la troisième marche mondiale des femmes a commencé le 8 mars et finira donc le 17 octobre. Alors j'aimerais un petit peu connaître un peu l'histoire de ces marches. Comment ça a débuté un petit peu, Marlène?
Bon, ça a commencé en fait il y a très très longtemps déjà, lorsque les femmes d'ouvriers et des ouvrières elles-mêmes, dans les années 1920, ont estimé qu'il n'y avait plus assez à manger, que les patrons qui venaient de les mettre à la porte, leur mari et elles-mêmes, exagéraient un peu. Elles ont fait une marche très célèbre qui s'appelait Bread and Roses, du pain et des roses. Et c'est d'ailleurs l'origine de la Journée mondiale des femmes. Et alors il y a des Québécoises qui ont repris ce thème, Bread and Roses, du pain et des roses, en 1995, et qui ont fait à leur tour une marche à Montréal. Et puis, peu à peu, elles se sont intéressées à ce que faisaient les femmes de la base. Alors, je dirais, surtout, j'insisterais beaucoup sur le fait que c'était les femmes de la base et non pas les femmes étiquetées féministes, tu vois. Alors, donc, voilà, la première marche mondiale des femmes a donc été organisée en 2000. Et puis, il y avait déjà plusieurs pays dans le coup et ça avait lieu, ça avait commencé dans plusieurs pays pour converger à l'ONU cette année-là. Et en 2000, il y en a une deuxième qui est également, je crois, à converger à l'ONU, je ne sais plus exactement. Mais donc, 2005, oui, c'est ça, la première est en 2000, la deuxième en 2005. Et là, nous sommes donc dans celle de 2010 qui, grande originalité, mais grande urgence aussi, va converger dans la République démocratique du Congo.
Est-ce que cette marche en fait est liée à la journée de la femme, ou est-ce que c'est-à-dire qu'elle a débuté le 8 mars, ou est-ce que ça n'a rien à voir en,
C'est-à-dire que ça n'a pas rien à voir avec le 8 mars. L'idée, c'est que la journée du 8 mars est une journée internationale, et la marche mondiale des femmes, c'est un mouvement international de femmes. Donc l'idée, c'était de commencer la marche une journée qui pouvait parler dans tous les pays, à toutes les femmes de tous les pays.
Donc ça commence bien le 8 mars.
Ça commence le 8 mars dans tous les pays en même temps.
Voilà. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que la première fois, donc il y a eu en 1922-1995, c'était donc les États-Unis et Québec, hein, j'imagine. Mm-hmm. Et que maintenant, en 2000, c'était quelques pays. Et aujourd'hui, vous êtes à 51 pays qui sont partie prenante de cette marche à travers le monde. J'ai comptabilisé à peu près comme ça, grosso modo. Hein. Et comment, en termes d'organisation, parce que c'est quand même quelque chose d'important, quand même, finalement, en termes d'organisation, comment vous pratiquez? Est-ce que vous envoyez des ambassadrices dans les pays en question pour fédérer tout ça, ou alors est-ce que chaque pays a son collectif inscrit
En fait, c'est chaque pays a son collectif, donc c'est assez, c'est un mouvement qui est assez informel en fait. Il y a un secrétariat international quand même, donc avec des femmes de tous les pays qui tournent, mais l'organisation n'est pas hiérarchique et il n'y a pas, enfin il y a une organisation, mais c'est, enfin c'est pas, il n'y a pas un secrétariat, enfin il n'y a pas un une présidente et il n'y a pas, enfin chaque pays s'organise en fait avec les mouvements de femmes qui sont dans le pays, les groupes, les associations, les partis de chaque pays quoi.
D'accord.
Et c'est des collectifs, c'est pas.
Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à certains pays et puis est-ce qu'il y a des choses un peu comme ça qui se passent ou pas du tout?
Sur les revendications, sur les thèmes,
oui.
Bah, sur la liberté aussi de,
sur la liberté,
de,
bien sûr,
de marcher, bien sûr. En l'occurrence.
Bah, les principes, enfin, on est quand même d'accord globalement sur les luttes à mener pour la liberté des femmes. Et après, il y a des thèmes qui peuvent être plus importants dans des pays, dans d'autres. Mais bah, il y a des discussions, il y a, enfin, c'est des consensus et beaucoup, enfin, oui, voilà, on se met quand même d'accord sur des revendications essentielles. Et
d'accord.
Mais moi, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est que on est vraiment de fil en aiguille sorti du féminisme classique, ouais, académique, traditionnel, qui était surtout basé sur la parité, et encore aujourd'hui c'est très fort, surtout en France, et puis les droits de reproduction, avortement, contraception, violence, pour se rapprocher de plus en plus des préoccupations des femmes, encore une fois, de la base et surtout dans le pays du Sud, quoi. C'est enfin, je dirais que toutes les organisations féministes occidentales ne sont pas forcément d'accord avec nous, parce que nous ne nous battons pas uniquement pour les femmes. C'est pas un corporatisme féminin, c'est une lutte pour la vie, pour la survie, pour le bon sens, etc. Enfin, ah, voilà.
D'accord. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de pays du Sud, et justement, ces pays du Sud, en termes de marcheuses dans ces pays du Sud, est-ce que dans 2005 ou en 2000, vous avez répertorié le nombre de gens qui ont participé à ces marches, ou vous aviez une idée un petit peu de... Dans le passé, non, vous n'avez pas une petite idée?
Non,
pas trop.
On n'est pas tellement dans l'évaluation entrepreneuriale.
D'accord. Alors, ce qui était intéressant, toujours pour se parler de l'organisation, je vois qu'a priori, au départ, c'était donc la construction de marionnettes, a priori, de ce que j'ai su.
De marcheuses.
Ouais. Hein. Donc, il y a des ateliers, vous faites des ateliers pour que les gens fassent des marionnettes, des costumes pour les habiller. Et puis, comment ça fonctionne un petit peu les ateliers là?
Il y a le service civil international qui a proposé de faire des ateliers dans le quartier avec des marcheuses, enfin des membres, pour faire des marionnettes, oui.
D'accord. Et là, vous avez eu du monde dans ces ateliers? Vous avez eu du monde actuellement
ou... Pour l'instant, ça n'a pas encore commencé.
Ah, ça n'a pas encore commencé.
Non, par contre, il y a des collectifs de province déjà, enfin, ouais, dans les régions qui ont déjà fait des marcheuses et qui sont venus.
D'accord.
Enfin, qui nous ont.
Mais ce sera surtout pour la manif du 12 juin.
Ouais,
ouais,
le 8 mars, il y en avait déjà quand même de fait, quoi.
Alors, donc, les revendications, vous disiez que c'était un peu différent du féminisme traditionnel, donc il s'agit plutôt de droit au travail, par exemple, de la femme, ou de droit au revenu, au même revenu.
Alors, en fait, au niveau international, il y a quatre thèmes qui ont été retenus. Donc, c'est des thèmes qui sont assez larges, mais en fait, donc c'est les violences envers les femmes, qui reste un thème classique, le travail et autonomie économique des femmes, bien commun et bien public, et guerre, enfin paix et démilitarisation. Donc
contre la guerre, quoi.
Oui,
contre la guerre.
Ouais.
Et la guerre, ce sont les hommes qui la font en général.
Ouais,
oui, alors, paix et démilitarisation. Quel est le lien avec le combat féministe?
L'exemple le plus typique, c'est ce qui se passe au Congo en ce moment, c'est-à-dire que les Congolaises qui sont, alors là il y a des chiffres que j'ai pas retenus, mais c'est quelque chose d'absolument faramineux, qui se font violer, mutiler, estropier, tuer, etc. par tout le monde, par toutes les factions qui sont, y compris l'ONU, des troupes de l'ONU d'ailleurs. Et donc, moi j'ai beaucoup beaucoup, enfin j'ai plusieurs amies congolaises, et je les aime beaucoup parce que c'est elles qui vont le plus loin. Elles disent, il faut arrêter de nous parler du viol des femmes, parce qu'il n'y aurait pas de viol s'il n'y avait pas de guerre, et il faut arrêter de nous parler de la guerre, parce qu'il n'y aurait pas de guerre si les Occidentaux n'essayaient pas de mettre le grappin sur nos richesses minières. Et ça,
mais dans ces pays-là, le premier viol, c'est quand même l'excision. Est-ce que ces femmes-là ont
bah
aussi...
Non, mais non, pas du tout.
C'est une mutilation.
C'est une mutilation, oui, c'est ça.
Mutilation.
C'est quand même assez grave. Hein,
bon. Non, l'excision, c'est plus au nord.
Quelque part, vous pensez que les femmes sont les premières victimes des guerres
en règle générale?
Bah oui.
Absolument, mais on n'arrête pas de le dire, et moi, je n'arrête pas d'ajouter que les femmes étant, justement, les premières victimes des guerres et des conflits et de l'absence de biens communs, des services publics, etc., etc., ce sont aussi celles qui ont le plus le droit à la parole pour dire qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça dans une société où il n'y a plus que des prédateurs et des victimes, quoi. Donc, elles utilisent leur bon sens pour dire arrêtez cette guerre qui est complètement con, qui tue tout le monde. Enfin, c'est quelque chose qui traverse le siècle, quoi, depuis très, très, très longtemps.
Alors, justement, il y a un deuxième thème que j'aurais aimé aborder avec vous, c'est bien commun et service public. Donc, c'est quand même bien commun et service public. C'est service public, c'est quand même un terme générique qui concerne les femmes et les hommes. Alors, pourquoi avoir pris ce sujet de combat dans le cadre de la marche des femmes, alors, la marche mondiale des femmes? Puisque, a priori, le service public, c'est nous disons nous-mêmes ici dans cette radio qu'on aimerait avoir le service public gratuit pour tous. Alors, pourquoi c'est lié à la marche des femmes, alors que vous auriez pu prendre un autre sujet, par exemple?
Vous pouvez nous donner un exemple concret.
Qu'est-ce qui est COP quand il n'y a pas de crèche? Qu'est-ce qui est COP quand il n'y a pas de maison de retraite? Qu'est-ce qui est COP
quand
il n'y a pas d'école? Qu'est-ce qui est COP quand il n'y a pas de transport? Quand il n'y a pas d'eau, qui c'est qui va chercher l'eau? Il y a des femmes qui passent 3 heures par jour à aller chercher l'eau. C'est les femmes les premières victimes de l'absence de services publics et de la spoliation des biens communs.
D'accord. Et que font les hommes pendant ce temps-là, alors, pendant qu'ils vont chercher l'eau?
Ils sont en prison, ils sont morts ou ils se battent.
D'accord. Ça va pas.
Okay. On a un rôle.
Alors, il y a un thème que je voudrais quand même aborder, parce que vous aurez l'occasion de revenir dans cette émission pour parler de la suite, hein, des événements. Mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la violence faite aux femmes, donc un sujet qu'on a déjà abordé dans cette émission. La violence faite aux femmes, est-ce que vous avez constaté dans le cadre de ces marches, différentes marches à laquelle vous avez participé, que la violence faite aux femmes est différente au sud par rapport au nord, ou c'est à peu près l'équivalent, c'est partout pareil? Est-ce que vous avez une petite idée un petit peu de la façon dont les je dis pas les ethnies, c'est idiot, mais les peuples gèrent cette violence
Est-ce qu'il s'agit d'une violence institutionnelle? Est-ce qu'il s'agit d'une violence informelle? Ouais. Est-ce que finalement, dans nos pays occidentaux, on est aussi violent envers nos femmes que dans les pays du sud, puisqu'il y a des statistiques qui sont assez tragiques de mort violente? Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences culturelles, ou c'est un problème de culture, ou pas du tout?
Enfin, je pense pas que ce soit un problème de culture. C'est plutôt l'organisation de la société, mais de manière générale, enfin, il n'y a pas vraiment de différence entre le sud et le nord. Peut-être que les violences ne s'expriment pas de la même façon, mais il y a quand même un système patriarcal dans tous les pays, et dont les femmes font les frais dans tous les pays. Et après, les violences, elles peuvent s'exprimer différemment, mais on est victime dans tous les pays de la même façon de la domination masculine. C'est plutôt ce système qui est à remettre en question et qui engendre les violences, qui permet ces violences. Et...
D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut avoir recours à la loi, par exemple? Quel est le dans l'état actuel, par exemple en France, pour prendre exemple français, ouais, pour l'égalité salariale, pour...
Je pense que les lois, c'est un premier pas. Mais tant qu'on ne cherche pas réellement à changer les mentalités, le système patriarcal reste en place. Et je pense qu'il y a quand même une petite différence entre le Nord et le Sud, c'est que dans beaucoup, beaucoup de pays du Sud, il y a encore ce qu'on appelle le droit coutumier. Et ce droit coutumier, parfois, est plus fort que les lois du pays. Moi, je connais un peu la situation en Inde, mais il y a des pratiques absolument effroyables. Par exemple, on amène une femme à se faire brûler si sa famille ne donne pas suffisamment d'argent au mari. Et c'est un phénomène qui, étrangement, c'est un droit coutumier, ça, c'est un phénomène qui, étrangement, s'est accentué grâce à la libéralisation de la société, à l'accroissement des yuppies, des gens riches qui veulent avoir de plus en plus d'argent. Et il y a de plus en plus, j'ai eu l'occasion d'interviewer une juge qui était désespérée parce que dans les milieux supérieurs de la société, il y avait des femmes qui s'amenaient, qui étaient brûlées de la tête aux pieds. Parce que la famille n'avait pas voulu casquer pour le mari. Alors ce droit coutumier continue à être extrêmement fort et parfois les lois n'y font pas grand-chose.
Et malgré la soi-disante modernisation de l'enrichissement de la société.
Ah ben là, la modernisation, vous y croyez ou
C'était une question.
C'est en tout cas des pays qui sont plus ou moins en voie de développement. Donc a priori, s'ils se développent, ils devraient acquérir quand même une...
Non, mais c'est une question. C'est-à-dire que finalement, les formes de violence faites aux femmes ou le droit coutumier coexistent, semble-t-il, tout à fait avec l'ère libérale qu'on connaît.
Absolument, oui. Ouais.
Donc c'est un peu une lutte anticapitaliste, alors, que vous menez, finalement, non?
Ben, on pourrait dire ça, oui.
C'est la remise en question de notre société aujourd'hui. Enfin, après, c'est sûr que le système capitaliste permet ce genre de choses.
D'accord. Alors, quels sont les espoirs que vous portez justement par rapport à ces marches? Parce que ces marches, est-ce que vous avez l'intention d'en faire tous les 5 ans? Parce que c'est prévu, en fait, c'est tous les 5 ans. Hein. Donc, ou alors est-ce que vous avez l'intention, comme nous dans notre émission, de un jour s'arrêter parce que les choses auront changé, donc on n'a plus besoin d'être là pour en parler?
Ah, ce serait super. Hein,
c'est...
Okay. Oui, c'est sûr que c'est l'objectif.
C'est l'objectif quand même, d'accord. Okay. Non, d'accord. Donc, il y avait un autre justement, un truc qui paraît important, mais je ne sais pas, parce que c'est pas tellement lié au pays du Nord, puisque vous parlez de l'autonomie économique des femmes. Or, dans les pays du Nord, je parle principalement des communautés européennes, hein, les femmes travaillent presque autant, pour beaucoup précaires, hein, bien sûr, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de femmes qui ont des postes à responsabilité, qui ont donc des salaires. Donc, qu'est-ce que vous entendez par l'autonomie économique des femmes?
Le taux d'activité des femmes a beaucoup augmenté ces dernières années, même si elles sont les principales victimes du travail à temps partiel.
Après, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'elles travaillent que ça veut dire qu'elles ont l'autonomie économique. Elles ont vous avez dit des temps partiels. Enfin, c'est, je crois, 83% des salariés à temps partiel sont des femmes. Donc, déjà, il n'y a pas un salaire égal, ça. À travail égal, il n'y a pas de salaire égal. Et puis, c'est aussi, beaucoup de femmes s'arrêtent de travailler quand elles ont leurs enfants. Beaucoup, et il n'y a pas de.
Il n'y a pas de relais. C'est-à-dire qu'elles restent toutes seules avec leurs enfants. Et c'est une autonomie, super autonomie, finalement, parce qu'elles se retrouvent. C'est pas du tout une égalité.
En mère isolée, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
En fait, c'est une double tâche.
Oui, tout à fait.
Mais parce que, est-ce que vous considérez que, dans, par exemple, par rapport au pays du Sud, est-ce que vous pensez que. Tu parlais tout à l'heure du fait coutumier, enfin du code de la famille éventuellement. Mmh. Donc, est-ce que ce sont les hommes qui détiennent les financements ou le budget familial dans les pays du Sud, hein, par rapport aux femmes qui travaillent éventuellement dans ces pays-là?
Jusqu'à présent, c'était le cas, mais c'est de moins en moins le cas. D'accord. Parce que il y a notamment des opérations de microcrédit où les femmes se débrouillent beaucoup mieux que les hommes, parce que les hommes espèrent toujours trouver un boulot régulier, ou alors ils ont été chassés de leur terre, ils sont chômeurs, quoi. Alors les femmes se débrouillent et elles ont accès à un microcrédit, mais il y a énormément de problèmes dans les pays du Sud où il y a des microcrédits, parce que les femmes touchent cet argent et elles n'arrivent pas à le cacher. Et les maris ne supportent pas que la femme ait cet argent, le cherche, la batte, etc. Enfin, il y a des expériences très très intéressantes d'ailleurs pour essayer de remédier à cette situation, en Inde notamment. Mais de plus en plus, ce sont les femmes qui se débrouillent et qui font fait. On dit que l'Afrique tient le choc, hein, grâce aux femmes qui ont des petits boulots informels, quoi.
Mais c'est vrai parce qu'en Centrafrique, il y a une communauté qui est matriarcale, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui donc au niveau de la famille, donc mm-hmm. s'occupent des enfants principalement, bien sûr, mm-hmm. mais où l'homme n'est là que pour la reproduction. Est-ce que c'est toujours vrai, ça, ou
c'est le cas dans beaucoup de pays, pas uniquement en Centrafrique. La cellule familiale, c'est la femme et les enfants, et les hommes naviguent entre. Moi, j'ai vu ça à la Jamaïque, par exemple, où j'ai vécu pendant quelques temps, mais même là. Et à la Jamaïque, on l'explique par l'esclavage, parce que c'était la cellule de base, quoi, la femme et les enfants.
Très bien. Alors, peut-être que vous voulez rajouter une dernière chose, peut-être des rendez-vous pour la marche des femmes, mondiale des femmes, hein, parce que c'est plusieurs pays. Est-ce qu'il y a une convergence des luttes, là? Est-ce que tout le monde se retrouve à un endroit précis, là?
Bah, justement, la marche se termine au Congo le 17 octobre. D'accord. Donc ça, c'est un rendez-vous international.
Une journée de la misère.
Journée de la misère, oui. D'accord.
Et après, il y a des rendez-vous au niveau des continents. Donc en Europe, par exemple, on va se retrouver à Istanbul, en Turquie, le 30 juin. Donc il y a une convergence au niveau européen. Et puis au niveau national, il y a une manifestation nationale le 12 juin à Paris. Et on organise un forum le week-end du 12 et 13 juin à la salle des fêtes de Montreuil sur les quatre thèmes, donc voilà, avec des débats.
Est-ce que vous vous attendez à des problèmes dans certains pays, par exemple à Istanbul, quand vous allez vous réunir là-bas? Est-ce que vous pensez, ou même au Congo,
Istanbul pas tellement, mais au Congo en fait c'est une délégation qui va y aller, c'est-à-dire que comme c'est au sud Kivu, c'est un pays qui est en conflit, et donc il y a des difficultés là-bas à organiser un rassemblement avec trop de personnes, donc en fait il y a une délégation qui est organisée avec un nombre de femmes par pays qui va pouvoir y aller, et les femmes de pays en conflit sont prioritaires évidemment. Et donc, c'est 600 ou 700 femmes, je crois.
D'accord. Donc, en fait, vous attendez un retentissement médiatique aussi, finalement. Hein. C'est ça, symbolique et médiatique.
Les journalistes n'aiment pas les femmes.
Bah, pas nous, parce que...
Non, mais c'est aussi...
Pas nous, parce que vous êtes là.
Hein. L'idée, c'est aussi de...
Vous n'êtes pas tout à fait comme les autres.
Non, l'idée, mais... c'est aussi de soutenir les luttes des femmes là-bas et de montrer la solidarité qu'il y a entre les femmes dans tous les pays du monde. Et donc, ça donne aussi un souffle... à toutes les femmes qui se battent, quoi. Donc après, l'idéal, ce serait qu'il y ait un retour médiatique, mais.
Bien sûr. Bon, on commence par cette émission, puis vous reviendrez quand vous voudrez.
Puis quand vous serez sur France 2, vous pourrez.
Tout aura changé.
Alors, je tiens à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, surtout les auditrices, puisqu'elles sont certainement plus concernées que les auditeurs, a priori, hein, par rapport à la Marche mondiale des femmes, que nous avons un site qui est www.mode-d-emploi.net. Et vous pourrez postcaster cette émission dès lundi, il n'y a pas de souci.
Puis si vous avez un site, enfin, on pourra mettre en lien aussi.
On mettra votre site en lien sur notre site à nous. Très bien. Vous avez peut-être... dites-nous votre site. Tu as le site en question
Je
ne
sais plus.
Un numéro de téléphone. Générique.
www.mmffrance.
MMF France 2010, je crois, c'est ça.
Oui,
voilà. Bah, merci à toutes les deux de nous avoir parlé dans ce micro.
Reçu.
Vous êtes invité à revenir dans cette émission quand vous voulez pour en parler de la suite.
Hein. Avec plaisir.
On est un peu pris par le temps parce qu'on a une deuxième équipe derrière. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Alors, donc, et bravo
peut-être
pour votre
marche. Peut-être au 12 juin pour faire un bilan. Alors,
dernière question, est-ce que les hommes peuvent marcher avec vous?
Oui, bien sûr que oui, bon, les hommes peuvent
marcher. Derrière.
Du moment qu'on est devant, c'est nous qu'on voit.
Merci beaucoup à toutes les deux. On écoute une petite chanson, on reprend la suite.
Rêver un impossible rêve inaccessible, et toi,
et oui. amis, c'était la quête de Jacques Brel. Nous sommes tous en quête, bien sûr. Les femmes, dans la marche mondiale des femmes, sont en quête de liberté, a priori. Et puis là, nous sommes en quête de retrouver du travail, puisque nous avons été licenciés. Enfin, c'est pas mon cas, mais enfin, ça aurait pu l'être. C'est donc des péricultrices, c'est ça qu'on dit ? On dit comme ça
On a différents diplômes. Voilà. Je suis éducatrice de jeunes enfants, mais je crois que la question n'est pas celle du diplôme ce soir, quoi.
D'accord. Donc là, ce soir, excuse-moi.
On est tous des professionnels de la petite enfance. Voilà.
Voilà. Donc, effectivement, c'est comme je suis marin, c'est les femmes et les enfants d'abord, donc cette émission est particulièrement pour les femmes et les enfants. Donc, a priori, c'est Marion Assia, c'est ça hein,
oui, Assia.
Merci, Assia. Et Salah, donc vous êtes, donc il y en a deux qui sont donc professionnels de petite enfance. Hein.
Tout à fait.
Et il y a un syndicaliste de la CNT qui défend ces deux.
De ceux qui les défendent,
parce qu'elles ont été finalement licenciées et remplacées sur le qui-vive par d'autres professionnels qui sont, apparemment ne le sont pas tout à fait. Mais on va en parler tout de suite. Et je suis avec toute l'équipe, bien sûr, de Mode d'emploi. C'est sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Voilà. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, Marion, tu vas pouvoir nous dire un petit peu ton parcours et nous dire comment tu es rentrée dans cette Tu étais professionnelle à Paris. C'était à quel endroit ?
Voilà. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai tout bêtement été diplômée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai donc mon premier poste en fait en tant qu'éducatrice de jeunes enfants était dans cette halte garderie dans le 13e qui s'appelle la halte garderie Giono. Et donc c'est une halte garderie qui en fait était au départ associative, qui a été mise sur le marché, qui était une délégation de service public et qui ensuite en 2006 a été repris par une grosse crèche d'entreprise qui s'appelle People and Baby. Voilà. Donc depuis la reprise en gestion par cette crèche d'entreprise, les conditions de travail se sont nettement dégradées et ça a été assez compliqué pour nous de maintenir le projet pédagogique qui était le nôtre, qui était assez spécifique, voire alternatif et qui était pensé par toute l'équipe. Voilà. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dans cette halte garderie, mais pour certaines de l'équipe, ça faisait 6 ou 7 ans qu'elles travaillaient ici. Et donc, voilà, les conditions se sont vraiment nettement dégradées et ça a été compliqué, mais on a tant bien que mal réussi à maintenir notre projet pédagogique tel qu'il était, malgré les pressions de la direction, malgré le changement de directrice, parce qu'en 3 ans, j'ai vu quand même 5 directrices passer. Et c'était compliqué pour elles d'être entre nous avec notre projet très stable et très, très bien réfléchi et de faire le pont en même temps avec une entreprise qui souhaitait simplement faire de l'argent, du bénéfice, et pas forcément respecter les projets de chacune.
Alors, juste pour rappeler quand même, la halte garderie, c'est pour des enfants qui ont entre 0 et 3 ans, c'est ça hein ?
Voilà, c'est ça, entre 3 mois et 3 ans, d'accord. Tout à fait.
Okay. Qu'est-ce que tu entends par des conditions de travail qui se dégradent ?
Les conditions de travail qui se dégradent, c'était simplement la difficulté de mettre en place notre projet qui était le même depuis le début, avec des pressions pour changer nos horaires de travail alors qu'on s'était arrangé entre nous pour fonctionner d'une certaine manière, sur certains horaires, en fonction de nos vies particulières à chacune. Et puis donc des directrices qui changeaient du tout au tout en 3 ans, 5 directrices, c'est quand même pas rien. Donc à chaque fois, fallait se réadapter à leur façon de travailler. Et puis des demandes pour des raisons de sécurité entre guillemets, de mettre des barrières là où nous on voulait pas en mettre, d'avoir des comptes rendus à faire sur les enfants, des tableaux à remplir, enfin voilà, tout ce qui était absolument pas dans notre idée de départ de pédagogie, quoi.
Est-ce que la direction fait un planning la fin du week-end pour dire la semaine sera comme ça et plus comme vous voulez la faire ?
Ça s'est pas passé réellement comme ça, mais en fait ils ont essayé depuis plusieurs années de nous faire changer notre planning, bon, en disant que c'était la mairie qui les imposait ces changements de planning. Bon, puis c'est pas tellement une question de planning, c'est surtout une question de respect des employés. Simplement, on est dans une entreprise qui en fait n'a pas de convention collective, donc on fonctionne sur le code du travail, donc c'est déjà le strict minimum, et encore c'est pas forcément respecté dans tous les cas. Et puis,
Oui, tu veux rajouter quelque chose, Aïssa, non, peut-être ? C'est quoi ton parcours, toi, par rapport à ça ?
Donc, moi, j'ai un CAP petite enfance, donc je travaille aussi dans l'halte garderie Giono, donc avec People and Baby. Ça fait 1 an, je travaillais avec La Passerelle,
oui.
L'ancienne association qui a été reprise par People and Baby. Ça fait 3 ans que je suis avec People and Baby.
D'accord.
Voilà.
Et donc, est-ce que ce sont les conditions de travail à cause de ces changements de directrice, de programme, etc., qui a amené la grève chez vous ou...
Bah alors il y a ça parce que ça fait il y a ça, mais il y a en même temps le fait qu'en fait nous voyons que on n'arrivait pas à maintenir une ambiance agréable dans la structure et qu'on était souvent en conflit avec la direction et la coordination, les coordinatrices en fait qui faisaient le lien entre l'entreprise et nous. On avait voilà beaucoup de mal à continuer à travailler de la manière dont on travaillait avant. Et du coup, on s'est dit voilà, toute seule, on va peut-être pas pouvoir s'en sortir. Faut peut-être qu'on pense à syndiquer. Mais on y pensait simplement à l'époque. Et en fait, il y a simplement donc les conflits se sont un peu aggravés avec la dernière directrice. Et du coup, en fait, on s'est vu recevoir en fait des lettres qui nous demandaient d'être là pour des entretiens. De bilan sur notre situation professionnelle. Voilà, donc apparemment c'était juste un prétexte parce que ces réunions-là, oui, ces entretiens-là, là en fait on parlait pas du tout d'avenir et notre projet professionnel, mais nous proposait simplement des ruptures conventionnelles de contrat en disant voilà, c'est un peu compliqué de travailler avec vous, ça a l'air d'être compliqué avec les directrices qui passent et qui circulent dans votre lieu, donc on voudrait se séparer de vous.
Oui, je me souviens de ces entretiens-là où je me suis retrouvée à leur parler de notre projet pédagogique, comment je voyais l'avenir dans cette halte-garderie. Et ils m'ont dit, voilà, vous n'êtes pas là pour ça et nous, on ne veut plus continuer à travailler avec vous et vous allez devoir soit partir, soit nous licencier, quoi.
D'accord. Ouais. Ça, c'était pour toute l'équipe pour...
Au départ, oui, cette proposition, c'était pour toute l'équipe.
Ouais, d'accord. En fait, c'est un peu comme si vous aviez voulu à un moment vous autogérer d'une certaine façon et que, bon, que l'entreprise ne l'ait pas entendu de cette oreille pour le principe, en quelque sorte.
C'est ça. Bah, en fait, on travaillait plus ou moins de façon assez autonome. On n'avait pas tellement affaire à l'entreprise jusque-là. Et puis, ça s'est un peu dégradé et aggravé par la suite parce qu'il y a des choses qui sont remontées vu que la dernière directrice en date, elle, souhaitait vraiment faire des changements radicaux sans en donner vraiment la raison à part le fait qu'elle aussi avait la pression de la part de l'entreprise pour imposer ces changements.
Mais est-ce qu'il y a derrière une volonté de rationalisation, aussi une volonté de réduire des coûts, ce genre de... Vous voyez, parce qu'on parle souvent de la sous-traitance, c'est une délégation de services publics.
C'est ça, hein.
Est-ce que vous estimez que le passage d'une entreprise a dégradé, quelque part, le travail que vous faisiez et aussi les conditions de travail et puis les budgets?
Bah en fait jusque là ça dégradait pas tant que ça le projet parce qu'on mettait un point d'honneur à le conserver tel qu'il était, mais simplement voilà, les directrices, ils ont essayé de mettre en place des directrices qui allaient imposer des changements mais ça ne passait pas, et la dernière elle a essayé d'être un peu plus dure avec nous et du coup ça a créé des conflits auprès des enfants, ce qui était assez dramatique, et une ambiance de travail vraiment insupportable.
En fait à la reprise de l'association, le PDG avait rassuré les parents en leur disant que rien n'allait changer, que le projet pédagogique allait être respecté, que l'équipe allait rester en place. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas et que c'était que des mensonges racontés aux parents et à nous, quoi.
Que pensent les parents de ces situations envers leurs enfants?
Bah les parents, donc au moment de la reprise, ils étaient déjà très en colère pour ceux qui étaient là depuis l'époque de la reprise, donc en 2006. Et pour les nouveaux arrivants, bon, on les avait pas forcément tellement tenus au courant de la situation parce que nous, on trouvait que ça se passait bien et qu'on arrivait quand même à maintenir quelque chose de stable. Mais ils ont commencé à sentir les changements, beaucoup de directrices qui tournaient, et puis ils ont vu qu'on commençait à être de moins en moins bien. Donc ils ont commencé à nous questionner à ce sujet-là. Et simplement avec leur soutien, on s'est mis en grève en fait à la suite de nos mises à pied. Donc le lundi 1er mars, on s'est mis en grève. On avait créé notre section en novembre.
Une section CNT, si je
puis. Une section CNT, voilà, la section People and Baby de la CNT.
D'accord.
Et du coup, voilà, après nos mises à pied, on s'est mis en grève le 1er mars avec leur soutien, c'est-à-dire que tous les parents avaient pas mis leurs enfants ce jour-là. Et le mardi matin, on arrive pour travailler sur nos nouveaux horaires qu'on avait fini par accepter parce que voilà, on voyait qu'il n'y avait pas d'autres solutions parce que c'était la mairie qui les imposait. Et ça, on veut bien l'entendre. Mais moi, quand j'en avais parlé avec une coordinatrice à l'époque, j'avais dit, mais pourquoi tous ces changements n'ont pas eu lieu dès la reprise en gestion en 2006? Elle m'avait dit, oui, mais à l'époque, vous ne faisiez pas tant parler de vous. Donc, en même temps, on voulait vous laisser le temps d'arriver. Mais maintenant que vous commencez à vous rebeller, on vous impose tout de suite. Donc voilà la raison, les raisons de la coordinatrice pour répondre à cette question.
Et Et
juste pour préciser, en fait, les fameux entretiens, en fait, par rapport au bilan professionnel qui se sont transformés en proposition de rupture de contrat et de mutation, en fait, c'était aussi c'était à la suite justement de la création de la section syndicale, en fait.
Oui, bien sûr. C'est
vraiment que là, il y avait une suite logique et limite évidente. Que par rapport aux questions des pressions sur les horaires et tout ça, ça s'est fait vraiment limite chronologiquement juste après. Quoi.
Mmh. Sachant que c'était la première section syndicale de l'entreprise.
Mmh. Tout à fait, oui. Sur une entreprise de à peu près 1000 salariés en France, on était les 6 premières à syndiquer. Donc ça fait peur, visiblement, du côté de l'entreprise. En plus, à la CNT, oui.
Je vous félicite pour les deux raisons. Et la CNT et les 6 premières, très bien. Non, mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que les enfants quand même qui ont... entre 6 mois, on va dire, et 3 ans, ils ont besoin de référents, en fait, je veux dire, en termes de repères.
Oui, de repères, oui, tout à fait. Ouais.
Et là, du jour au lendemain, vous êtes remplacé. Comment ça se passe? Alors, le repère, les enfants pleuraient? Comment ça s'est...
En fait, déjà, ils ont menti aux parents en disant qu'on était en maladie, alors qu'on venait de se faire jeter à la porte. Et les enfants, ils sont évidemment retrouvés sans repères et... Et nous non plus. Nous aussi, on s'est retrouvés sans repère, quoi.
Mais ce jour-là, ouais, concrètement, en fait, on est arrivés pour travailler sur nos nouveaux horaires et on s'est vues toutes les unes à la suite des autres. Donc recevoir des lettres de mise à pied.
C'est très violent.
De mise à pied. Donc il fallait partir sur le champ, donc devant des parents, des enfants. Et surtout arriver et voir une nouvelle équipe qui était déjà auprès des enfants dont on s'occupe d'habitude. C'est assez violent déjà.
Ouais. Mais normalement il faut trouver, enfin je suppose, une faute grave ou quelque chose pour une mise à pied.
Ils ont dû la trouver. Ouais,
mais c'est la question.
Ils ont donné une raison, insubordination aux directives concernant de la direction concernant les mesures d'hygiène et de sécurité
qui mettent en danger les enfants.
Alors qu'avant il n'y a jamais eu d'avertissement par rapport à ça.
Voilà, on a eu aussi des entretiens annuels d'évaluation qui disaient qu'au niveau hygiène et sécurité, il n'y avait rien à se reprocher. Voilà. Et ça datait de 2 mois avant la mise à pied quasiment, quoi.
Et comment les parents ont pris cette chose-là le jour où ça vous est arrivé, quand ils ont emmené les enfants, que vous avez eu votre mise à pied? Comment ils ont pris ça, les parents?
Ils n'ont pas compris. Ils étaient complètement outrés, choqués, très mal. Ils nous ont vus sortir en pleurs pour certaines. Il y en a même qui ont été obligés de rester sur le groupe d'enfants toute la journée parce que la directrice a essayé de leur mettre la pression en disant signer une rupture conventionnelle de contrat.
C'est mieux
vous avez encore le temps pour réfléchir à ça. Ce sera mieux pour vous. Donc elles ont été obligées de rester à moitié en pleurs devant les enfants toute la journée auprès des enfants.
Alors, l'encadrement des enfants en halte garde ou au crèche, on va dire, c'est quoi? C'est 1 pour 4, c'est quoi? C'est...
Alors la règle c'est 1 pour 5 qui ne marche pas et 1 pour 8 qui marche.
D'accord. Et là, quand vous avez été remplacé, c'était 1 pour combien là finalement? C'était à peu près
ils étaient dans les normes, pas un problème. C'est qu'en fait, donc le jour où on a été remplacé, donc il y avait une nouvelle équipe.
C'était pas les mêmes équipes tous les jours pendant
apparemment,
une semaine,
ça a changé tous les jours, quoi. Donc voilà.
Et comme on sait, ils veulent faire passer de 8 à 12.
Oui, alors ça c'est le décret Morano qui est pas encore passé, qui j'espère ne passera pas, parce que nous aussi dans cette halte garderie, on avait non seulement un projet pédagogique spécifique, mais on avait aussi réussi à rester plus nombreuses que la loi ne le disait auprès des enfants, et on pense que c'était encore pas suffisant, parce que voilà, les enfants, les tout petits ont besoin quand même d'un certain nombre de repères et d'être dans une stabilité affective, et voilà. Donc c'est ça aussi, c'est qu'au niveau des repères, en fait, quand les parents ont vu arriver la nouvelle équipe a complètement jeté tout le matériel qu'on avait, les jeux qu'on avait mis en place, et ils ont changé la place. Donc ça peut paraître normal pour d'autres personnes, mais pour nous qui sommes professionnels, voilà, on sait que la place des lits pour les enfants, c'est très important. Bon, donc ils ont changé totalement la place des lits, les lieux pour manger, ils ont fait marcher des enfants qui ne marchent pas, alors que nous, c'est complètement en dehors de notre projet, parce que voilà, on laissait le temps à l'enfant de grandir et de savoir faire les choses.
Les petits qui sont passés chez les grands aussi. Nos affaires qui ont été mises dans des sacs poubelles.
Voilà, donc non seulement ils ont changé d'équipe, mais ils ont perdu tous les repères au niveau spatial et temporel.
Alors ça là, justement, tu vas prendre mon micro. Alors toi, comment tu as connu cette situation et comment tu as défendu ces salariés?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, ça fait un certain temps que je fais partie donc du syndicat santé sociale CNT. Et donc, suite donc aux soucis qu'ils avaient auprès de leur employeur, ils ont décidé donc de créer une section syndicale. Et donc, ils ont fait appel à la CNT pour soutenir la création de cette section. Donc pour le coup, elles faisaient partie donc des sections CNT de la région parisienne. Et donc à partir de là, elles ont en fait, en gros, on les a soutenues de fait partant du principe que à chaque fois, à partir du moment qu'il y avait une lutte qui se mettait en place, donc soutenue financièrement, soutenue, va dire techniquement, dans le sens où par exemple l'idée c'était s'il fallait diffuser des tracts ou des choses comme ça, ou faire des les aider à faire des courriers, enfin faire de l'activité syndicale, puisque en fait eux, elles en fait découvraient cette question là en fait. Et donc le syndicat donc c'était partie prenante de leur lutte, partant du principe que à partir du moment où ils étaient c'était une section qui était affiliée à au syndicat de la région, et voire même, enfin plus précisément d'ailleurs, elle est affiliée à la fédération donc Santé Santé Sociale, partant ce qui a pour conséquence que là c'est une section qui est pas locale mais c'est une section nationale, c'est-à-dire que n'importe quel salarié de People and Baby en fait qui voudrait peut se syndiquer directement à la section, quel que soit l'endroit où il habite en France en fait.
Voilà. Et ce qui est le cas d'ailleurs, parce que depuis qu'on a ouvert la section, il y a plusieurs salariés qui ont souhaité syndiquer, d'autres pas forcément, mais qui, en fait, on est en train de se rendre compte que partout en France, il y a des salariés en souffrance chez People and Baby.
Oui, justement, est-ce que vous avez un peu creusé un peu les pratiques de cette entreprise en dehors de votre propre crèche et de vos propres expériences?
Oui, nous, on a pu voir déjà que, bon, évidemment, ils voulaient casser l'équipe et nous mettre un peu... exploser l'équipe et nous mettre à différents endroits. Ça s'est terminé par des licenciements. Mais dans d'autres structures, en fait, on a appris que dès qu'il y avait une ambiance de groupe qui se créait, une équipe qui fonctionnait bien, ils les séparaient, ils les mettaient sur différentes sections, voire à d'autres endroits. Et puis, on a entendu parler aussi de rupture conventionnelle de contrat, de mutation, de mise à pied pour d'autres raisons, mais de mise à pied apparemment pendant 3 mois. Nous, ça a été le cas pendant 3 semaines. Donc ça veut dire que les mises à pied conservatoires, c'est quand même sans salaire. Ouais. Donc voilà, 3 mois sans salaire, c'est quand même assez énorme. Et puis des situations de pression psychologique sur tous les lieux en fait.
Et puis aussi au départ, ils voulaient faire croire que ce problème-là, c'était que dans notre halte garderie, et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls et qu'il y a plein d'autres gens aussi qui osent pas peut-être en parler et que
Du coup, maintenant qu'on est amené à diffuser des tracts dans d'autres structures, on se rend compte à quel point les salariés sont flippés, c'est le cas de le dire, et qu'elles osent pas s'exprimer, qu'elles vont pas bien, que voilà, en fait, il y avait hier la manifestation de pas de bébé à la consigne dont on était signataire. Et en fait, on a appris que dans la plupart des structures, il y avait des notes qui étaient affichées disant « Voilà, vous, ça ne vous concerne pas. Si vous voulez soutenir le mouvement, vous pouvez mettre un brassard, mais continuez à travailler auprès des enfants et ne vous mettez pas en grève. »
Ouais. D'accord.
Gloire à qui freine à mort. Femme celle qui sans lui, quelle horreur, serait morte pucelle. Cette fille est trop vilaine, il me la faut.
Et oui, bonjour et bonsoir à toutes et tous. Vous êtes toujours sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires, dans FPP, fréquence par pluriel 106.3 FM. Ce soir, nous parlons donc effectivement des crèches et des haltes-garderies avec Marion, Aïssa et Salah.
Asia, pardon.
Ah, décidément, excuse-moi. Hein. Asia. Voilà. Donc, dont les deux personnes ont été licenciées, on leur a trouvé plus ou moins une faute grave, plus ou moins...
Motif bidon. On a été trois à être licenciés.
Au motif bidon, et donc remplacés par d'autres professionnels, a priori. Mm-hmm. Donc là, vous êtes dans une procédure contre eux. Donc, vous êtes passé au prud'homme, c'est ça?
Prud'homme, oui.
Oui, on est passé au prud'homme en référé. Oui. Je ne sais plus la date. Mais en tout cas, bon, il y a eu un départage entre le représentant des salariés et le représentant des patrons. Donc du coup, en fait, on a une prochaine date, ce sera le 29 juin.
Licenciés, il y a le 27 mai pour une réconciliation avec le People and Baby.
D'accord. Alors, dans un premier temps...
Une conciliation. Bon, enfin, on demande la nullité des licenciements, voilà.
Alors, dans un premier temps, avant de demander la nullité des licenciements, il faut peut-être expliquer comment les licenciements ont eu lieu. Comment ils ont eu lieu, ces licenciements?
En fait, suite à 3 semaines de mise à pied longue et difficile, pendant laquelle on a essayé de continuer à négocier quand même avec le patron de... Donc, Monsieur Durieux. Dans laquelle on a essayé de négocier avec lui, où il se passait rien du tout. Par la suite, on a reçu nos courriers. C'était un peu jusque là, on s'est dit il va peut-être revenir sur ses décisions parce qu'il avait l'air d'être un peu inquiet quand même de ce qu'on pouvait faire et de l'ampleur de la démarche syndicale qui était en train de se mettre en place. Mais au final, donc il y a eu 3 licenciements sur les 5 salariés, parce qu'il y en a une entre temps qui a signé une rupture conventionnelle de contrat, parce qu'on partait de 6. Donc ensuite, sur les 5 salariés, il y en a 3 qui ont été réintégrés, 3 qui ont été licenciés, une qui a été réintégrée, c'était la responsable de section syndicale. Bon, on sait qu'il est un peu difficile de licencier une responsable de section syndicale.
Ouais, c'est
donc
difficile.
Voilà. Et la dernière qui a été mutée sur une crèche. Voilà, sur une autre crèche.
D'accord.
Donc, ces deux dernières, elles n'ont pas accepté de travailler sans le reste du groupe, donc elles se sont mises en grève depuis.
Et est-ce qu'il y en a de compensés, vu qu'ils nous font chier, on va monter notre propre crèche?
Bah, on y a pensé pour l'instant, on est plus dans l'idée de simplement être réintégré dans le lieu dont on a été viré sans raison, mais par la suite on y pensera sans doute.
Oui.
Donc on peut dire que vous avez vraiment fait le choix de pas accepter ni de rupture conventionnelle ni d'être recasé, et donc vous avez préféré vraiment partir.
Bah, non, parce que c'est d'ailleurs que si j'imagine que
c'est
si,
une question.
Oui, bien sûr, Ludo. Mais je pense que si elles acceptent, ça veut dire qu'elles considèrent qu'ils ont,
voilà,
ils ont raison
tort,
de licencier quelque part. Quoi.
Exactement.
Donc,
voilà. On ne va pas reconnaître des fautes qu'on n'a pas faites.
Absolument.
Et puis surtout, on n'a pas envie de négocier avec un patron qui, lui, est loin de négocier.
Oui.
Certes, financièrement, c'est difficile, mais heureusement, il y a le syndicat qui nous soutient derrière et des gens aussi, d'autres gens aussi qui envoient des chèques.
C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé au prud'homme, vous ne pouvez pas vous inscrire aux ACEDIC.
Pour l'instant, on n'a pas reçu l'attestation.
Ils n'ont pas reçu l'attestation de licenciement, d'accord.
Okay. Bon, on ne va pas tarder à la recevoir, on va pouvoir s'inscrire aux ACEDIC, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de continuer à lutter pour la réintégration. Les parents sont avec nous, ils ont monté un comité de soutien, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent.
Il y a une pétition.
En tout cas, ils font des lettres, voilà, qu'ils essaient de faire signer effectivement par le plus grand nombre. Et puis, forcément, il faut se mettre aussi à leur place. Ils essaient surtout que les conditions pour leurs enfants aujourd'hui dans la garde régionaux soient un peu plus favorables qu'elles ne le sont pour l'instant. Donc elles savent bien que la seule solution, c'est qu'on soit tous réintégrés.
Et dans ceux qui sont en l'aide de licenciement, est-ce qu'il y en a qui sont pour le moment pouvoir avoir des indemnités chômage parce qu'elles n'ont pas assez travaillé pour avoir des indemnités chômage?
Bon, en fait, là, on a tous des licenciements pour faute grave, donc il n'y a pas d'indemnité de départ, et puis voilà. Donc c'est les pires des licenciements. Voilà.
Alors, juste une chose, c'est où, à quel endroit dans le 13e exactement?
En fait, c'est donc rue Giono, métro Quai de la Gare, c'est derrière la bibliothèque François Mitterrand.
D'accord. Donc, hors micro, tu m'avais dit qu'effectivement, ce People on Baby, ça s'appelait d'abord People on Business, c'est ça?
Oui, au tout départ, c'était une boîte qui s'appelait People on Business, donc comme son nom l'indique, une boîte qui fait du profit. Et c'était le PDG, monsieur Christophe Durieux, qui l'a monté. Par la suite, il a donc transformé un peu cette entreprise en People and Baby. Je crois que People and Business existe encore, mais en fait sa femme à ce monsieur-là est puéricultrice, donc il s'est allié avec elle pour créer une boîte qui s'appelle People and Baby, mais qui continue à faire du business surtout et qui a absolument pas envie d'entendre parler de pédagogie, quelque part presque pas d'enfants non plus.
Et est-ce qu'ils ont augmenté les prix pour les enfants en mettant en crèche quand ils sont arrivés?
Bah, apparemment, ça aurait un peu augmenté, mais les prix sont pas liés à l'entreprise directement. C'est lié à la mairie de Paris, à la CAF et tout ça. Donc, c'est pas tellement eux qui peuvent être influents là-dessus.
J'ai une dernière question. La mairie de Paris ne vous a pas soutenu?
La mairie de Paris ne nous a pas soutenu. On a fait un rassemblement avec de nombreux syndicalistes et différents partis politiques devant la mairie du 13e. Et on a eu la possibilité d'avoir un entretien avec un directeur de cabinet de la mairie du 13e qui en fait nous a clairement fait comprendre qu'il était en train d'essayer d'avoir un maximum d'infos sur nous, notre lutte et éventuellement notre dossier pour avoir des billes en fait contre nous et du côté de People and Baby.
Très bien. Bah, écoute, on espère que M. Durieux ne va pas vendre les enfants, parce qu'il va apparemment faire du commerce. Hein.
On espère aussi. On espère surtout qu'il va nous réintégrer, parce qu'on a envie de retourner sur nos lieux de travail.
C'est la demande, c'est de la réintégration totale, et avec la prise en compte, évidemment, des 3 mois où vous n'avez pas pu travailler, ça va de soi.
Trois semaines.
Oui. Donc, on va suivre l'affaire ici dans cette émission, et vous revenez quand vous voulez, évidemment. Vous êtes
invité. Merci beaucoup. C'est gentil.
Voilà.
Donc, merci beaucoup.
Je vous en prie. Donc cette émission se termine. Je vous remercie messieurs dames de l'avoir suivi. Merci messieurs dames de l'avoir faite, en tout cas ici. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Salut les filles. Je vous embrasse.